La mort d'une personne ne signifie pas sa mort numérique.
La première.
Il y aura bientôt plus de morts que de vivants sur Facebook.
J'ai besoin de repères.
Pourquoi pas écrire un testament pour nos données ?
Les clés médias, Marie Van Cutsem.
Bonjour et bienvenue dans les clés médias. Aujourd'hui, on se projette dans ce qui nous survivra. Peut-être croyez-vous à la réincarnation après la mort. Et si, au-delà du volet religieux, on continuait à exister tout de même, sous forme d'une entité en ligne composée de codes binaires, de 0 et de 1. Il faut dire que nous laissons derrière nous une quantité impressionnante de données numériques personnelles, une sorte d'empreinte digitale de notre personnalité, de nos goûts, nos messages, notre façon de parler, nos achats, nos activités en ligne, notre image. Aussi. En France, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a tenu un colloque il y a quelques semaines sur les données des personnes disparues. C'est que le sujet est de plus en plus prégnant après notre mort. Que vont devenir toutes ces traces que nous avons semées un peu partout sur Internet, à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle collective, car toutes ensemble, elles forment un immense corpus qui constitue sans doute une forme de passé numérique commun. On se plonge, pour commencer cette émission, dans un peu de fiction. Plus si fictionnel que cela. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés Médias.
La première, les Clés Médias.
C'est quoi ce truc ? À quoi ça sert ? C'est un pauvre truc de...
Tu cliques sur le lien et ensuite tu pourras lui parler.
Comment ça, parler ?
Tu tapes des messages, comme pour un email. Et ça te répond, comme lui l'aurait fait.
Mais il est mort !
C'est un logiciel. Il crée un simulacre de la personne. Tu lui donnes son nom.
Il fouille dans son passé. Il lit tout ce qu'il ou elle a pu écrire sur Internet de son vivant. Tous ses posts sur Facebook, ses tweets. Tout ce qui a été publié.
Je me suis contentée d'entrer le nom d'H. Le système s'est occupé du reste.
Non, mais c'est un truc de taré ! De taré !
Écoute, dis-lui bonjour déjà. Si ça te convainc, tu lui donneras accès à sa messagerie privée.
Plus il a de données, plus il lui ressemble.
Ça le remplacera jamais.
C'est vrai.
Mais ça fait du bien.
Dans cet épisode de Black Mirror, intitulé « Be Right Back », bientôt de retour, et sorti en 2013, une jeune femme qui vient de perdre son mari dans un accident de voiture se lance dans une conversation en ligne avec un faux lui, grâce à un logiciel. Black Mirror a l'habitude de pousser la dystopie à son paroxysme. La jeune femme va donc passer au stade supérieur du logiciel assez rapidement, avec une conversation par téléphone.
Allô ?
Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Allô ?
Allô ? Tu as exactement la même voix que lui.
Ça fait un peu flipper, non ? Enfin, je veux dire, c'est carrément délirant que je puisse même te parler. Moi qui n'ai même pas de bouche.
Et l'étape d'après, vendue comme encore expérimentale, je ne vous la dévoile pas, mais je vous laisse l'imaginer. Aujourd'hui, en tout cas, cet épisode est en partie devenu réaliste entre les mains des petits génies de la Silicon Valley. Il faut dire que la somme des données que l'on laisse derrière soi est gigantesque à l'échelle d'une vie. En 2019, l'université d'Oxford a sorti une étude particulièrement intéressante. D'ici quelques dizaines d'années, il y aura sur Facebook plus de pages de gens décédés que de gens vivants. Les chercheurs ont établi une fourchette située entre 2050 et les premières décennies du 22e siècle sur base de calculs intégrant les paramètres démographiques et les adhésions au réseau social. Tout cela au niveau mondial, pure projection bien sûr, mais qui soulève d'intéressantes réflexions. Au niveau de chaque individu d'abord, car cet héritage numérique, il faut bien le gérer. Sur Facebook, par exemple, il existe un paramètre qui permet de supprimer notre page à notre décès ou d'en faire une page commémorative que l'on peut alors léguer à un proche. Les tutos YouTube pour expliquer comment faire pullulent sur le sujet.
Pour désigner un contact légataire sur Facebook, il est nécessaire de te rendre dans les paramètres et confidentialité, ensuite dans paramètres et enfin cliquer sur « Modifier » et sur la ligne paramètres de commémoration. Ici, il y a un rappel sur ce que peut faire ou ne peut pas faire la personne légataire, et donc de la possibilité de désigner un ami Facebook comme personne légataire responsable de ton compte à ton décès.
Ici, la chaîne Le Bon Voisin donne toutes ses astuces. Mais cela ne concerne que Facebook ici, or la réflexion est plus large. Les autres réseaux sociaux, les traces d'achat, nos comportements de navigation en ligne, il y a une foule de données qui nous concernent.
Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. How those assorted tank tops work out for you?
Mr. Yakamoto.
Forget your troubles.
What's so giant?
Caution. Manual. Fuel.
La réflexion, elle est aussi collective, car si on dézoome le corpus gigantesque laissé par tous les humains décédés, compose en quelque sorte notre passé numérique. Faut-il le conserver? Et si oui, comment? Qu'est-ce qu'on sélectionne? Qui sélectionne? Dans l'étude de l'université d'Oxford, les chercheurs plaident pour une gestion décentralisée de notre patrimoine numérique. Car concentré entre les mains d'un seul acteur économique ou politique, cela pourrait amener à des dérives. Enfin, il y a le volet environnemental.
Le plus grand centre de données en Suisse a inauguré le début de son fonctionnement en mai dernier à Gland. Sur 14 400 m², les serveurs de l'entreprise SafeHost ont progressivement abrité les données de milliers d'entreprises. Quand cet immense data center sera complètement déployé, il consommera autant d'électricité qu'une ville comme Montreux, 26 000 habitants.
Comme évoqué dans ce reportage de la RTS, les serveurs consomment déjà d'importantes ressources, on le sait. Ça explose encore avec l'IA. Alors ces enjeux d'archivage, comment y faire face? On explore le champ quelque peu oublié des données numériques post-mortem avec nos invités aujourd'hui. Bonjour Louis de Disbach.
Bonjour Marie.
Vous êtes éthicien de la technique, ça veut dire que vous réfléchissez aux questions éthiques et philosophiques qui encadrent les questions des nouvelles technologies. J'ai envie de vous entendre sur cet épisode de Black Mirror qu'on a entendu il y a quelques instants. Ça existe aujourd'hui des entreprises qui proposent de fabriquer un chatbot sur base des données numériques d'un proche décédé ?
Oui, tout à fait. Et moi, c'est quelque chose que je trouve absolument fabuleux parce que l'épisode dont on a parlé, il sort en 2013. Et en 2013, c'est également l'année où sort le film Her, dont pas mal de gens ont entendu parler, où quelqu'un tombe amoureux d'une IA. Et tout le monde s'empresse de dire à quel point c'est génial parce qu'il donne vraiment une très bonne direction de là où la technologie ne doit pas aller. Et il nous aura fallu 10 ans. Il nous aura fallu une petite dizaine d'années pour effectivement aller exactement dans cette direction-là. Et moi, je trouve que c'est, ça en dit très très long d'un certain côté sur les idéaux de celles et ceux qui construisent la technologie.
On va y revenir, hein, bien sûr. Est-ce que c'est réaliste aussi, cette idée selon laquelle notre empreinte digitale, elle nous reflète très intimement et qu'avec tout ce qu'on laisse en ligne, on pourrait créer un double numérique de soi qui est tout à fait crédible ?
Alors, c'est une question philosophique, moi je trouve majeure. Notamment, il y a un philosophe du 20e siècle qui s'appelle Martin Heidegger qui dénonçait justement que la technologie, elle avait une façon de nous forcer à voir le monde et qu'on ne pouvait voir le monde que par le prisme de la technique. Et typiquement, là, la question qu'on peut se poser, c'est sommes-nous, oui ou non, plus que la somme de nos traces numériques? Et il n'y a pas forcément de réponse, c'est une façon de voir les choses. Certaines personnes vous diront que, bah non, si jamais nous, on a beaucoup été sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, etc. En fait, on pourrait être uniquement la somme de nos traces numériques. Et d'autres personnes, dont je fais partie en tout cas, pourraient vous dire, mais non, mais il y a ce petit quelque chose en plus que le code informatique, qui ne sont finalement que des 0 et des 1 mis bout à bout, ne pourra jamais percevoir. Mais j'ai aucune preuve de ça. C'est une conviction personnelle.
Vous me disiez en préparant cette émission que vous, ce que ça réveille chez vous, tout ça, c'est la question de la dignité. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
En fait, il y a une double dignité, moi, que je trouve importante à creuser. D'une part, c'est la dignité des personnes décédées. Est-ce que, effectivement, oui ou non, on a le droit, potentiellement sans leur consentement, de les, entre guillemets, ramener à la vie ? On voit de plus en plus comme ça d'initiatives auxquelles moi je m'associe tout à fait, qui disent un peu « do not bot me », ne faites pas de moi un robot après mon décès. Voilà, pour le faire plus simple, en fait, je suis mort, laissez-moi tranquille. Donc il y a un peu ce côté-là. Et puis de l'autre côté, la dignité des personnes qui ont perdu des proches. Alors évidemment, le processus de deuil, c'est un processus qui est extrêmement personnel. Et moi, il n'y a aucun jugement de valeur. Chacun, voilà, processe ça de la façon dont il ou elle peut. C'est toujours une période, je pense, difficile. Mais il y a quand même des gens qui vont pas se priver de se faire beaucoup, beaucoup d'argent sur le dos des personnes qui sont extrêmement tristes. Et c'est très bien repris justement dans cet épisode que vous avez mis en exergue au début de cette émission. Dans Be Right Back, notamment, sans vouloir tout divulguer, parce que vraiment l'épisode est très bien. Donc, celles et ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas. Mais il y a ce côté où, en fait, ça finit par coûter très cher à la personne. Parce qu'évidemment, les gens n'offrent pas ça par gaieté de cœur, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, effectivement, il y a aussi une question de la dignité de la personne endeuillée.
Mmh. Bonjour Alix Gobert.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CRIDS de l'INAMUR, Centre de Recherche en Information, Droit et Société. Vous êtes spécialisée dans la protection des données. Avec vous, on va être très concret. Hein. Ces données que l'on laisse derrière nous en ligne, qu'est-ce qu'elles deviennent après notre mort? Quel cadre légal existe aujourd'hui? Parce que quand on pense données, on pense souvent au RGPD. Or ici, ça ne s'applique pas.
Oui, en effet, donc c'est une vaste question hein, parce que vous l'avez très bien mentionné et je trouve que l'épisode le met bien en lumière, mais on laisse en effet une quantité vraiment très importante de données lors de notre décès. Donc tout plus ou moins, sauf si la personne a pris ses prédispositions, mais je pense qu'on y reviendra plus tard, ou si les héritiers agissent, a priori, il y a énormément de choses qui vont continuer à exister sur la toile, même une fois que nous sommes décédés. Et c'est vrai que lorsque l'on parle de protection des données, on a tendance souvent à penser, le premier réflexe, c'est de penser au RGPD, hein, qui a vocation à protéger les données à caractère personnel des citoyens européens. Mais alors, il y a une limite importante, en tout cas par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est que ce RGPD ne s'applique en fait que du vivant des personnes et cesse de s'appliquer en fait à partir du moment où les personnes sont décédées. Donc ça, c'est vraiment une limite importante. Et en fait, cette limite importante, elle s'explique par plutôt de la philosophie juridique, j'ai envie de dire. Mais donc, il faut vraiment revenir à la base de, en tant que personne, on a une personnalité juridique. Et cette personnalité juridique, elle va nous conférer deux grandes catégories de droits. Des droits patrimoniaux d'une part, donc des droits de propriété, des droits de créance par exemple, qui ont comme caractéristique d'être transmissibles et de pouvoir être transmis à nos héritiers par les droits de succession. Et on a d'autres types de droits qui sont des droits extra-patrimoniaux, qui n'ont pas de valeur, qui sont inaliénables et qui ne sont pas transmissibles par voie de succession à nos héritiers. Et les droits en fait que confère le RGPD en matière de protection des données à caractère personnel relèvent de cette catégorie des droits extra-patrimoniaux et donc cessent d'exister finalement au moment où la personne décède.
Et ça veut dire quoi? Ce sont quels droits, ces droits extra-patrimoniaux? Est-ce que par exemple on parle du droit à l'image là-dedans ou du droit à l'oubli?
Oui, c'est ça. Donc, en l'occurrence, sont considérés comme des droits extra-patrimoniaux le droit à l'image des personnes. Donc, de notre vivant, on a toute une série de droits sur les images que nous acceptons ou non de diffuser sur Internet. Celui-là s'éteint avec la mort des individus. Et un des droits, évidemment, très importants dans le RGPD, c'est le fameux droit à l'oubli qui permet, lorsque l'information n'est plus pertinente, par exemple, ou n'a plus d'intérêt, on peut solliciter son déréférence et sa suppression auprès des grandes plateformes. Mais ce droit à l'oubli, en fait, cesse d'exister au moment où la personne décède et donc nos héritiers ne peuvent pas exercer pour nous notre droit à l'oubli auprès des grandes plateformes une fois que nous sommes décédés.
Mmh. Alors que peuvent faire, Alix Gobert, nos proches très concrètement une fois qu'on est décédé? Quelles sont finalement les choses qui existent et sur lesquelles ils ont quand même un moyen d'action finalement?
Alors donc, le RGPD ne s'applique pas. Les États membres ont la possibilité de légiférer, mais la Belgique ne l'a pas fait. Les États membres, il y a très peu d'États membres hein, d'ailleurs qui ont réglementé cette question du futur des données des personnes décédées. Et donc, dans ce cas-là, face à ce vide juridique, on doit en fait se référer aux conditions générales d'utilisation des différentes plateformes. Et donc là, les solutions varient d'une plateforme à l'autre et également du type de service qui est fourni. Ou en tout cas proposé par la plateforme. Donc si je prends l'exemple de Facebook, mais ça vous le mentionniez très bien dans votre introduction, mais il y a donc deux voies qui s'offrent aux héritiers. Donc soit ils peuvent demander que le compte de la personne décédée soit transformé en un compte commémoratif. Il y aura une mention en souvenir d'eux à poser à côté du nom de la personne et il y aura des fonctionnalités supprimées. Et donc par exemple, plus personne ne pourra, même si on dispose du mot de passe ou de l'identifiant de la personne, nous ne pouvons plus accéder à ce compte. Et donc, ça, c'est une garantie importante pour notamment faire barrière aux différents risques d'usurpation d'identité ou en tout cas de hacking, puisque plus personne ne pourra se connecter au compte de la personne. Ou deuxième possibilité, c'est demander la suppression du compte. Alors ici, en tout cas auprès de Facebook, il y a toujours une démarche active de la part des héritiers qui va devoir être réalisée, parce que Facebook, lui, n'aura pas connaissance, évidemment, du décès des utilisateurs. Et donc, il y a une démarche active Steve, dont le chef des héritiers qui devrait être réalisé. Puis
c'est ça, envoyer par exemple contact, un certificat de décès, voilà. etc. Et évidemment, ça dépend d'une plateforme à l'autre. Il faut aussi réfléchir de son vivant hein, et stocker, pourquoi pas, les données essentielles en lieu sûr. De ce côté-là, Sarah Pousset va nous expliquer ce qui émerge du côté des notaires en Belgique. On l'écoute.
La question des données numériques et de leur récupération lors d'une succession émerge doucement dans le monde notarial, mais nous n'en sommes encore qu'au tout début, comme l'explique le notaire Jérôme Hoth.
Actuellement, c'est rare, mais ça commence. Les générations qui sont maintenant en train de planifier, etc., ne sont pas encore des générations qui ont 36 000 profils, et ce n'est pas encore une question qui se pose vraiment. Les plus jeunes, eux se posent cette question-là de plus en plus.
Si vous souhaitez que vos profils soient supprimés ou que vos photos soient conservées, eh bien il faut donc préparer sa succession dans le monde numérique. Et pour cela, la Fédération des notaires a créé un outil pratique, une sorte de coffre-fort en ligne, nommé EasyMe. La plateforme EasyMe est accessible sur ordinateur et sur smartphone. L'objectif de départ, c'était de permettre aux notaires d'échanger des documents privés avec ses clients, sans passer par mail ou par des plateformes de partage. Le notaire ou le client dépose un document et envoie une notification à l'autre partie pour le télécharger de son côté de façon sécurisée.
C'est une plateforme à laquelle vous avez accès soit par carte d'identité, soit par EasyMe. Donc, il n'y a que la personne elle-même qui peut avoir accès. Et ce n'est pas un envoi de documents, mais plutôt un dépôt de documents dans des boîtes aux lettres sur une plateforme entièrement sécurisée à terme. Tous les documents qui sont téléchargés sur cette plateforme sont en fait scannés par les antivirus et autres protections de la Fédération des notaires, qui fait quand même partie, des meilleurs de Belgique, de par le niveau de sécurité que nous, en tant que notaires, on doit avoir.
EasyMe a été créé par la Fédération des notaires, mais le coffre-fort est bien personnel. Seul le client choisit donc quel document il souhaite partager avec son notaire ou avec un autre contact, par exemple un conjoint ou des enfants. On peut donc y stocker tout un tas de documents personnels importants, comme des diplômes, des actes de naissance, un certificat PEB. Jérôme Hoth a aussi une autre suggestion qui peut s'avérer utile à votre décès, mais aussi de votre vivant.
Faire une liste, en fait, avec tous les profils sociaux, les codes d'accès, etc., et de la mettre dans le coffre-fort EasyMe, parce que ça permet aux héritiers d'avoir accès, en fait, au coffre-fort EasyMe après le décès, et en fait d'avoir un document qui reprend tout, et qui donne des instructions, et qui donne les mots de passe, etc. Et donc ça, c'est vraiment très pratique. Outre le fait que le coffre-fort EasyMe, vous avez l'application que vous pouvez avoir sur votre smartphone, et si vous avez oublié vous-même un identifiant ou un mot de passe, il suffit d'ouvrir votre smartphone, et vous avez accès à tout ça.
Ce coffre-fort numérique peut accueillir jusqu'à 1 giga de documents et il est entièrement gratuit. À votre décès, l'entièreté de son contenu ou seulement une partie est transmise à vos héritiers.
Voilà, alors ce qui est intéressant ici, évidemment, c'est toute cette question de l'anticipation personnelle de son propre décès et de ce qu'on va faire de ces données numériques. Alix Gobert, encore une question, hein, vraiment sur ce cadre légal et sur les risques qui existent. Est-ce qu'il y a des risques, de vrais risques à laisser traîner des données non gérées après notre mort? Qu'est-ce qui nous attend si on ne fait pas quelque chose?
Je dirais que le premier risque, c'est finalement un risque d'éternisation de l'identité numérique, puisque s'il n'y a pas une démarche active à un moment de la part des héritiers ou bien de nous-mêmes lors de notre vivant, si je reprends l'exemple de Facebook, parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, et il y a quand même énormément de données qui sont publiées par les utilisateurs du réseau social. Le compte Facebook ne prévoit jamais de le supprimer, donc même s'il y a une inactivité prolongée de 5, 10 ou 15 ans, rien dans les conditions générales d'utilisation de Facebook laissent apparaître qu'à un moment, le profil disparaît et donc ça donne lieu à différentes situations qui peuvent être assez incommodantes finalement pour l'entourage de la personne décédée, comme par exemple des notifications annuelles qui rappellent l'anniversaire de la personne décédée, ou bien le fait que le profil de la personne apparaisse dans les suggestions d'ajout de toute une série de personnes. Donc ça rajoute une couche quand même d'inconfort et de difficultés dans le processus de deuil pour l'entourage. Et alors le deuxième risque que j'ai déjà évoqué tout à l'heure en parlant des profils commémoratifs, c'est le risque d'usurpation d'identité et de hacking de ces comptes. Donc ici aussi, c'est quelque chose qui pourrait avoir des impacts quand même très 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 grands pour l'entourage des personnes décédées. C'est notamment des personnes malveillantes qui reconstitueraient à partir des données du compte Facebook d'une personne défunte un profil et qui enverraient des messages à l'entourage divers et variés. On peut évidemment imaginer le choc que ça peut générer. Et alors j'en vois un troisième qui est plus en lien avec le coffre-fort numérique dont on vient d'entendre une explication. C'est aussi en fait la perte d'une quantité énorme de données. Donc je pense par exemple à tous les fichiers de stockage dans les clouds, etc. Donc comme par exemple les photos qu'on stocke sur Google Photos, etc. Si serait lié à un seul compte et que la personne n'a pris aucune disposition et que le drive est
tout ça disparaît
lié à
en
cette
fait,
adresse
et est perdu.
Voilà les
à
personnes
tout jamais,
hein. qui restent et qui voudraient accéder à ces photos qui sont parfois des photos de famille. Ça peut vraiment aussi mener à des situations difficiles pour les proches qui vont se rendre compte qu'ils ont finalement perdu une quantité très importante de souvenirs ou de documents divers.
Louis de Disbach, vous vouliez réagir à cela ?
Oui, tout à fait, parce que je trouve ça très intéressant. Il y a effectivement la crainte de la perte et puis le risque de la perte, mais il y a aussi le risque de trucs qui restent. Et si jamais, mettons, voilà, maintenant, des gens peuvent être sur Facebook depuis 20 ans. Hein. Facebook, c'est 2004, donc les gens peuvent être sur Facebook depuis 20 ans. On peut imaginer que les gens ont évolué depuis 2004. Peut-être qu'en 2004, les gens étaient plus racistes et climato-sceptiques, et puis que, coup de chance, ils ont échangé avec d'autres personnes, ça. Et maintenant, ils ont un avis peut-être plus modéré, peut-être plus sain. Que va retenir le chatbot qu'on ferait de ces gens-là ? Comment est-ce qu'on va choisir ? Quelles données on va prendre ? Est-ce qu'on va prendre uniquement les deux dernières années ? D'un autre côté, c'est quand même un peu nier l'évolution de la personne. Est-ce qu'on va prendre un peu tout ? Et donc, de temps en temps, une personne qui aurait énormément évolué, d'un seul coup, en fait, se retrouverait à dire des choses qu'elle aurait pu dire, effectivement, en 2004, 2005, 2006, mais aujourd'hui, plus du tout. Comment est-ce qu'on choisit ça ? Et la question du choix, finalement, c'est une question que la machine ne peut pas vraiment faire. C'est pas la machine qui peut décider. Mais alors, effectivement, on se posait la grande question. Qui décide ?
Ouais.
Qui décide de tout ça ? Et c'est rarement les personnes qui sont décédées, puisque généralement, au moment où on commence à vraiment se poser les questions, elles sont déjà parties. Et est-ce que les personnes qui doivent décider ont forcément toutes les cartes en main, etc.
On a, Louis de Disbach, abordé le volet individuel plutôt de nos données jusqu'ici. Il y a aussi le volet collectif. Hein. Dans l'étude de l'Université d'Oxford que j'évoquais au début, les chercheurs plaident pour une vraie réflexion sur l'archivage de tous ces profils de gens décédés, de leurs données comme un bien commun, un corpus de notre passé numérique. Exemple, vous prenez un tweet isolé, ça ne vaut rien, mais si vous prenez l'ensemble des tweets échangés le soir des attentats du 13 novembre à Paris, bien tout de suite, on mesure la valeur d'un tel corpus. Or, aujourd'hui, ce bien commun, eh bien, il est entre les mains de quelques géants de la tech. C'est un problème, ça ?
Ça dépend à qui vous demandez. Si vous demandez aux géants de la tech, ils vous diront non. Moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est... Shoshana Zuboff, elle posait une question, c'est une politologue américaine, et elle disait, tiens, mais qui sait et qui décide et qui décide ? Qui sont les gardiens des gardiens ? Et est-ce qu'on est d'accord, en fait, avec les réponses qu'on pourrait donner à chacune de ces questions ? Et typiquement, dans qui décide ? Aujourd'hui, ce sont effectivement uniquement les géants de la tech et on essaie de légiférer tant bien que mal, mais même la Commission européenne est en train un peu de rétro-pédaler sur le GDPR, ce que soit dit en passant, c'est un peu déplorable, mais c'est une autre question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qui va pouvoir décider de tout ça ? La mise en commun des données, c'est quelque chose qui est quand même pas mal prôné, et notamment, je dirais, par les personnes qui ont créé le web, qui à la base est vraiment une idéologie très libre de mise en commun, etc. de ça. Donc ça peut être aussi très intéressant, mais se pose toujours la question du consentement. Est-ce que les personnes qui sont décédées seraient d'accord que leurs données deviennent effectivement part d'un grand commun qui pourrait être utilisé par plein de choses ? C'est aussi une question de liberté individuelle.
Ces géants de la tech, ils ont un intérêt à garder les données de personnes, même décédées ?
Oui, tout à fait. En gros, pour la faire simple, une intelligence artificielle, pour qu'elle fonctionne bien, elle doit s'entraîner sur un maximum de données. Il y a d'autres leviers, mais un des grands leviers, c'est beaucoup de données et idéalement de très bonne qualité. Et donc effectivement, supprimer des données d'un set d'entraînement, c'est potentiellement perdre en qualité de cette intelligence artificielle. Et donc oui, un maximum de données, que les personnes soient décédées ou pas, que les personnes soient réelles ou pas, etc. Peu importe, tant qu'on a des données, on va les utiliser.
Les chercheurs d'Oxford, ils invitent aussi à réfléchir aux solutions matérielles d'archivage. D'abord parce que le matériel et les formats techniques évoluent, donc on peut perdre beaucoup de données en chemin. Et ensuite parce que ça va occuper des serveurs, qui sont déjà des grands consommateurs d'énergie. On a l'impression qu'on évoque ici un sujet qui est vraiment crucial et qui ouvre plein de portes, qui va s'accentuer avec le temps, puisqu'évidemment, plus les gens vont décéder, plus il y aura de données en ligne. Comment expliquer qu'on en parle si peu, selon vous ?
Alors, Moi, ce que je vous proposerais d'abord, ce serait qu'on refasse une émission uniquement sur l'impact environnemental de l'intelligence artificielle au sens large. Ça, c'est sûr. Mais pour la faire simple, aujourd'hui, en fait, on n'en parle pas beaucoup parce que les personnes qui gèrent le narratif autour de la tech ont vraiment intérêt à ce qu'on n'en parle pas beaucoup. Pour celles et ceux que ça intéresse, le blog Bon Pote a sorti une très très belle enquête réalisée par Lou Velgreen et Théo Alves sur l'impact environnemental de l'IA. Et il est gigantesque, et c'est un impact environnemental, mais c'est également un impact politique à plusieurs niveaux, etc. Donc, il y a énormément de choses à discuter, mais dès qu'on commence un petit peu à creuser, on se rend compte que bah, c'est pas joli joli, et tout ce qu'on nous présente comme immatériel n'est pas du tout immatériel. Et que donc, il y a énormément d'impact que, évidemment, bah, dans un discours très marketing et très vendeur, on préfère cacher sous le tapis.
Et ce qu'on note aussi du côté de la Silicon Valley, ce sont pas seulement ces chatbots pour parler avec nos défunts, ce sont aussi toutes les expériences transhumanistes, etc. Comment vous expliquez-vous qu'il y ait une telle volonté de repousser la mort? Est-ce que Elon Musk, Zuckerberg et les autres, ils ont une sorte de fascination comme ça pour l'immortalité?
Je pense que c'est pas forcément l'immortalité, le fait de, c'est plutôt la puissance ultime. Je pense qu'aujourd'hui, une des rares limites qu'on n'a pas encore franchies en tant qu'être humain, c'est justement de repousser la mort. Et c'est vraiment s'élever au rang de Dieu. Aux dernières nouvelles, qu'on y croit pas, les seules personnes qui ressuscitent, etc., etc., c'est notamment par un pouvoir divin. Et donc, quel fantasme plus ultime que de se prendre pour Dieu et effectivement de pouvoir combattre la mort. Je pense que c'est principalement, et comme c'est malheureusement souvent le cas dans la Silicon Valley, des problèmes d'hubris, d'ego et d'orgueil démesuré.
Je ne sais pas vous, mais personnellement, je trouve que c'est vertigineux tous les champs de réflexion qu'ouvre cette émission. Peut-être que si on devait résumer, au fond, la mort numérique pose les mêmes questions que celles de la mort physique. Que voulons-nous laisser derrière nous? Que veut-on transmettre à nos proches et à la société? Ou que veut-on faire disparaître? Le cadre juridique apporte des balises, elles sont indispensables, mais tant d'autres secteurs entrent ici en compte. L'éthique, la conservation des traces numériques, l'évolution des technologies, la psychologie aussi, et j'en passe. Merci à nos invités pour leur participation. Louis de Disbach est éthicien de la technique et Alix Gobert, doctorante à l'UNAMUR et spécialisée dans la protection des données. À la réalisation de cette émission, il y avait Valentine Gourdange. À la préparation, Sarah Pousset et Marie Van Kutsem. À très bientôt pour de nouvelles Clés Médias.